Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Un géant en librairie. Ken Follett publie la suite de son best-seller mondial Les Piliers de la Terre. Dans une colonne de feu, l'écrivain gallois raconte la création des premiers services secrets au temps des guerres de religion. Bernard Lehu a rencontré en exclusivité Ken Follett, ses confidences dans un instant. Et nous vous offrirons au 32-10 des exemplaires de ce nouveau roman, Une colonne de feu. Nous rejoindrons Laurent Marsic à La Rochelle, où s'est ouvert hier soir le 19e festival de la fiction télévisée, sous la présidence cette année de la comédienne Sylvie Testu. Et puis le chanteur mexicain Rolando Villazón, joint par Charlotte Latour, rendra hommage à Luciano Pavarotti, disparu il y a 10 ans. La voix de Pavarotti est au cœur d'un triple album intitulé « Le ténor du siècle ».
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
Un géant débarque aujourd'hui en librairie, Ken Follett, et vous avez eu le privilège de le rencontrer en avant-première pour Laissez-vous tenter. L'écrivain gallois publie Une colonne de feu, c'est évidemment chez Robert Laffont. C'est la suite des Piliers de la Terre, la monumentale fresque historique consacrée par Follett au constructeur de la cathédrale du Moyen-Âge. Puis prolongée à l'époque de la Grande Peste dans un monde sans fin.
Et nous voici donc de retour pour la troisième fois à Kingsbridge, la ville du sud de l'Angleterre, imaginée par Ken Follett et dont il a fait le berceau de sa saga. Et nouveau bond dans l'histoire, cette fois-ci jusqu'au XVIe siècle, au moment de l'accès au trône d'Angleterre d'Elisabeth Ier, Ken Follett.
J'ai réalisé que la reine Elisabeth I d'Angleterre a créé notre premier service secret. Avec des espions, des contre-espions, des messages en code, des gens qui peuvent décoder ces codes. Et beaucoup des trucs de l'espionnage du XXe siècle, mais dans le XVIe. Et ça m'a intéressé parce que j'aime beaucoup les romans d'espionnage de suspense et... Surtout, j'aime les romans d'histoire et je me suis dit peut-être je vais mélanger les deux.
Eh oui, avant le succès mondial des Piliers de la Terre, Ken Follett s'est fait connaître comme un excellent auteur de romans d'espionnage. Dans Une colonne de feu, il réussit le cocktail parfait de ses deux passions et pour le plus grand plaisir du lecteur.
Alors résumons, si la reine Elisabeth Ier crée les James Bond du XVIe siècle, c'est parce que son trône, lui, est particulièrement menacé.
Mais oui, nous sommes au temps des guerres de religion, donc Elisabeth la protestante s'empare de la couronne, inacceptable pour les catholiques, non seulement d'outre-Manche, mais aussi d'une Europe déchirée, ravagée par l'intolérance et la haine religieuse, complots, massacres, attentats au nom d'un dieu. Cette fièvre fanatique du XVIe renvoie de manière assez troublante à celle de notre époque.
Étonnant, étonnant. Vous avez les gens qui se disent « Moi, je sais ce que le dieu veut. Moi, je sais. Pas de doute. » Même qu'il me dit que je dois faire un meurtre. Je sais ce qu'il veut et je dois le faire. Et vous avez cet phénomène aujourd'hui et dans le XVIe siècle. Et c'est à cause de ça qu'un personnage dans Une colonne de feu dit à un moment, l'homme qui est certain ce que le Dieu veut, c'est l'homme le plus dangereux du monde. Et j'espère que si on veut comprendre pourquoi nous avons ces événements aujourd'hui d'attentats à cause de religion, si on considère les événements parallèles du XVIe siècle, peut-être nous allons comprendre les événements d'aujourd'hui mieux.
Alors l'un des talents de Ken Follett, c'est de savoir faire revivre de grandes figures historiques. Est-ce toujours le cas dans Une colonne de feu, Bernard ?
Évidemment, et plus que jamais, priorité ici aux femmes. Trois d'entre elles qui jouent un rôle majeur en ces temps d'affrontements religieux. Catherine de Médicis, en France. Marguerite de Parme, alors là, c'est la moins connue.
Je la connais pas, celle-là.
Oui, elle était à la tête des Pays-Bas, gouverneur des Pays-Bas. Et donc, Elisabeth Ier, surnommée, vous savez comment ?
La Reine Vierge ?
Exactement.
Non, mais c'est une bibliothèque.
La Reine Vierge.
Évidemment, on ne peut pas être certain de ça, mais je le crois. Est-ce qu'elle est tombée amoureuse? Nous ne savons pas, mais le comte de Leicester était un homme très charmant et on pense qu'elle l'a aimé. Elle n'était pas belle, mais c'est clair qu'elle avait un charme formidable. En plus, elle peut être un peu cruelle. Les hommes avaient peur d'elle parce que si vous disiez quelque chose qu'elle n'aimait pas, bang! Je trouve ça fascinant. Cette femme jeune, à l'époque où elle est devenue reine, pas belle, mais puissante. Ouh.
Impressionnée, hein, Ken Follett. Alors, si puissante, Elisabeth Ier, qu'elle fera exécuter sa rivale, la Marie catholique, Stuart. Marie Stuart. Mais oui, incollable, Isabelle, sur l'histoire.
Ah bah, vous êtes bonne pour les grosses têtes, hein, je vous le dis définitivement.
Marie Stuart, reine d'Écosse. Et alors là, évidemment, cette exécution de Marie Stuart, c'est l'une des scènes marquantes du livre « Sous la plume », très efficace de Ken Follett.
Victime, Mary, reine d'Écosse, peut-être, mais aussi un peu stupide.
Mais alors, quelle fin, quelle mort, à la fois héroïque, mais l'exécution est terrible, et ça, vous le racontez en détail.
Oui, c'est toujours terrible. Une femme, on tue comme ça, avec un guillotine. C'était pas une guillotine, c'est la hache.
Décapité, oui, un coup de hache, par un bourreau très maladroit.
Et j'ai essayé de le faire terrible, parce que je le trouve terrible. Et Elisabeth, même qu'elle a autorisé l'exécution, elle l'a regretté énormément.
Alors, autre épisode historique magistralement revisité par Ken Follett dans ce 16e siècle, Isabelle, ça va également vous plaire, dans ce 16e siècle tourmenté, c'est le massacre des protestants, le jour de la Saint-Barthélemy en France.
J'ai découvert que l'homme, Sir Francis Walsingham, l'homme, vrai homme d'histoire, qui a construit la service secret pour Elisabeth,
un des personnages principaux du livre,
était à Paris, par hasard, pendant le massacre de Saint-Barthélemy. Et vous devez me pardonner de dire « Whoopi !» Parce que comme ça, je peux faire une connexion entre l'Angleterre et la France, et mon histoire peut embrasser l'Europe, parce que je n'aime pas écrire des histoires que d'Angleterre.
Eh bien, nous aussi, nous disons youpi, et on retrouve dans un instant Ken Follett pour la suite de cet entretien réalisé à l'occasion de la sortie chez Robert Laffont d'Une colonne de feu. C'est la suite des Piliers de la Terre, James Bond, Elisabeth Ier, Ken Follett et Bernard Lehu.
Non, je ne sais plus.
RTL, je dis youpi. RTL Matin. Laissez-vous tenter, il est 9h08. Et à 9h30, nous retrouverons Julien Courbet.
Ah bah oui.
Voilà, avec une journée portes ouvertes dans Ça peut vous arriver.
Et un énorme cadeau.
Exactement, vous pouvez gagner aujourd'hui avec Julien Courbet un iPhone 10. L'iPhone 10 qui vient d'être présenté en Californie. Vous pourrez le gagner grâce à RTL et Julien Courbet. C'est facile, 3210, ou alors vous envoyez CPVA, c'est-à-dire ça peut vous arriver, par SMS au 74 900. Juste avant 11h, Julien Courbet annoncera le nom du gagnant. Ça sera peut-être votre nom, puisque c'est un tirage au sort.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Suite de notre rencontre avec Ken Follett dans Laissez-vous tenter pour la parution aujourd'hui même d'Une colonne de feu chez Robert Laffont. Bernard Lehu, l'auteur des Piliers de la Terre, greffe au contexte des guerres de religion du XVIe siècle qu'il nous a rappelé tout à l'heure, une pure fiction et son propre héros.
Oui, Ned Willard, un jeune protestant de Kingsbridge, fasciné par la reine Elisabeth et qui va entrer à son service en tant qu'espion.
On peut dire que c'est le jeune homme qui paraît dans tous mes romans.
C'est vrai.
Il y a des choses que moi j'admire. J'admire le courage. Donc, un héros d'un roman de Ken Follett, en général, il est courageux. Il est intelligent. Au commencement, il est jeune et il n'est pas stupide, mais il a beaucoup à apprendre. Et le drame, l'histoire de comment nous apprendre ce qu'il nous faut dans la vie, ça m'intéresse beaucoup.
Et avec ce Ned Willard, espion de la reine et rival notamment des redoutables agents français, Ken Follett brosse l'un de ses personnages les plus attachants. Et comme il n'y a pas de roman parfaitement réussi sans amour, histoire d'amour, Ned le protestant va tomber sous le charme de Marjorie, une belle et douce catholique dont la famille s'oppose à l'idylle des deux jeunes gens, comme dans Roméo et Juliette.
Oui, mais n'importe quelle histoire d'amour, c'est Roméo et Juliette. Parce que sinon, les deux tombent amoureuses, ils se marient, ils sont heureux, il n'y a pas d'histoire. Donc, il faut que les deux ne peuvent pas se marier, ne peuvent pas être ensemble à cause de... C'est les Montagu, les Capulet, ou c'est les catholiques, les protestants.
Les catholiques et les protestants, voilà. Bien sûr. Ouais.
Ça vous donne l'impression de comment c'est stupide de se battre aux questions de religion. Vous voyez ces deux jeunes qui sont tombés amoureuses et vous devez réfléchir comment c'est stupide que nous faisons cette guerre.
Le succès phénoménal des romans de Ken Follett tient bien sûr à son talent de conteur, mais aussi aux soins qu'il apporte à ses reconstitutions historiques.
Ah, une méthode efficace et bien rodée, alors qui passe d'abord par, bien sûr, un énorme travail de documentation.
Il me fallait beaucoup de livres, d'abord. Environ 250 livres que j'ai employés dans les recherches. J'aime beaucoup visiter les endroits. Je suis venu à Paris avec un copain qui y a habité, historien. Il le connaît bien, il parle parfaitement français. Et nous nous sommes promenés dans les quelques rues anciennes de Paris.
Pourquoi ce besoin absolument, et vous faites ça pour chacun de vos livres, d'aller sur place?
Avec ça, je peux imaginer ce que les personnages font dans cette rue, cette ville. Si je n'ai jamais vu, je me demande toujours, est-ce que ça est possible dans l'endroit? Est-ce que je peux faire ça? C'est un problème, c'est une difficulté pour mon imagination. Donc, les recherches, ça me donne confiance. Je connais l'endroit, je peux imaginer les événements.
Et alors, Ken Follett pousse encore plus loin son souci d'exactitude historique. Voici sa botte secrète.
Ayant écrit un premier jet, je le montre aux historiens et je les paye pour le lire et chercher des erreurs ou aussi des choses qui lui frappent comme pas bon pour l'époque. Il me donne beaucoup, beaucoup de corrections. Et
donc là, vous écrivez le deuxième jet, la version définitive.
Et je change.
Ben voilà, vous savez tout.
Hein, oui.
Vous savez tout sur la méthode Ken Follett. Il ne vous reste plus qu'à vous précipiter sur Une colonne de feu, publiée chez Robert Laffont et disponible dès ce matin chez votre libraire.
L'interview de Ken Follett est à retrouver en vidéo sur RTL.fr et on vous offre son livre si vous répondez à la question de Bernard Lehu.
Alors, quel est le prénom du héros d'Une colonne de feu, Ned ou Fred?
Réponse au 3210.
Madame à gauche a buzzé. RTL Matin, 9h15.
Et Madame à gauche s'appelle Isabelle Morini-Bosque et dans quelques instants, elle nous donnera les résultats d'audience de notre soirée télévisée avec Médiamétrie.
Pas de délation.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Les audiences télé de la veille avec Médiamétrie, Isabelle.
Eh bien écoutez, je suis ravie parce que qui arrive en tête hier, de peu certes, hein, parce que les audiences sont très éclatées, mais c'est Alex Hugo, le téléfilm de France 2 avec Samuel Lubien et Lionel Astier. 4 800 000 téléspectateurs, c'est 80 000 de plus que Esprit criminel en face sur TF1, qui donc en rassemble 4 700 000. J'ai fait des calculs, je vous promets. Et alors Cauchemar en cuisine est en troisième position, 2 800 000 téléspectateurs pour Philippe Etchebest devant M6, 14% du public. Et côté TNT, c'est l'inoxydable 90 minutes enquête sur TNT. MC, décidément les polars, les Français adorent, même quand c'est des documentaires. 680 000 téléspectateurs pour TMC.
Isabelle Morini-Bosque, la télévision encore et toujours, direction le 19e Festival de la Fiction Télé de La Rochelle, où nous allons retrouver tout de suite Laurent Marcic. Bonjour Laurent.
Bonjour.
C'est l'endroit et le moment de l'année où toutes les chaînes viennent montrer au grand public les fictions qui seront programmées cette saison, et il paraît que ça a commencé très fort en ouverture hier, hein.
Eh ben, je vais être synchro avec Isabelle qui parlait du succès des polars. M6 hier soir a présenté Souviens-toi, très bien accueilli par le public. C'est un polar, 6 fois 52 minutes, créé par la famille Aknin. La fille Sarah à la production, le père Pierre à la réalisation, la mère Anne source d'inspiration et le fils Tim pour la musique. C'est l'histoire d'une petite fille témoin du meurtre atroce de ses parents et de son petit frère. C'est l'histoire d'un flic, Samy Boisgila, venu chercher de l'aide auprès de Marie Gillin, pédopsychiatre Marie Gillin, psy comme Anne Aknin, source d'inspiration de cette série.
J'ai besoin de vous, Marie, pour une petite qui va pas bien du tout. Je ne travaille plus en psychiatrie.
Je vous demande pas de retourner en psychiatrie. Je vous demande de vous en occuper 24 heures sur 24.
Je m'occupe de Madeleine et vous reprenez l'enquête sur la mort de ma fille.
Lila s'est suicidée, c'est ça que je veux pas comprendre.
Je suis convaincue que Lila ne s'est pas suicidée.
On doit à Pierre Aknin, La main du mal sur TF1. D'ailleurs, le premier titre de cette fiction d'M6 était à l'origine L'origine du mal. C'est devenu Souviens-toi, c'est beaucoup mieux. Alors, je ne vais pas dire qu'on est dans la même veine, mais il continue de creuser ce sillon qui fait sa marque de fabrique. C'est très cinématographique, Pierre Aknin.
On tisse l'origine de tous ces sentiments, l'origine d'où provient tout, pas le mal, mais la mémoire de tout ça. Et dans la mémoire, il n'y a pas que la mémoire de la petite, il y a la mémoire de ce flic qui va nous révéler des choses. Il y a la mémoire de Marie Gillin, qui joue Marie dans le film, qui va nous révéler une autre mémoire et découvrir des choses sur les personnages et les liens qui étaient immergés comme l'iceberg. On va découvrir ce qu'il y a en dessous de l'iceberg.
Alors ça s'appelle donc Souviens-toi, c'est pour M6, polar encore hein, Laurent, mais cette fois-ci avec un climat de comédie.
Oui, France 2 présente L'art du crime. Depuis Amicalement vôtre, les duos qui s'opposent font les beaux jours à la télévision. C'est le cas dans cette série policière où un flic interprété par Nicolas Gobbe, formidable, se retrouve muté à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Et il doit faire équipe avec Florence Chassagne, historienne d'art réputée. Elle est campée par Éléonore Bernheim. Elle a été vue au cinéma d'Ambis et Jean-Philippe. On la connaît pas encore, mais elle est formidable. C'est du polar en comédie. Écoutez l'extrait.
Ah oui, c'est ça. Tu participes à une enquête criminelle. Je vois pas de flic derrière toi.
Ah bah je peux te dire, j'en ai un, une sorte de cow-boy inculte qui pense que Botticelli c'est une marque de spaghetti.
Voilà, c'est assez drôle, c'est à venir sur France 2. On reverra Nicolas Gobbe dans une autre série de France 2, je vous en reparlerai en fin de semaine, ça va être un événement avant Noël. Ça s'appelle Le Chalet, c'est du pur polar. J'ai vu le premier épisode, c'est du Stephen King qui rencontre Agatha Christie.
Bon, ça promet, 19e festival de la fiction TV à La Rochelle, clôture, rappelons-le, samedi soir. On passe à... Oui, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, mais à propos de fiction, je voudrais juste signaler ce soir sur Arte Kim Kong avec Jonathan Lambert dans une comédie noire déjantée qui raconte un dictateur asiatique qui enlève un cinéaste pour qu'il lui concocte des films comme ça au kilomètre. C'est inspiré d'une histoire vraie. C'est à voir.
Il y a 10 ans, disparaissait l'un des plus grands ténors de tous les temps, Luciano Pavarotti. Il aurait eu 79 ans cette année. Sa maison de disques lui rend hommage avec un triple album, Le Ténor du siècle.
Et il y a peu de superstars de l'opéra, des personnalités qui marquent des générations de mélomanes, séduisant à la fois les habitués de l'opéra et le grand public. Luciano Pavarotti était de cela. Sole mio, chanson traditionnelle napolitaine qu'il a sûrement chanté petit avec son papa boulanger et chanteur amateur. Luciano Pavarotti a commencé sa carrière en Italie quand il avait une vingtaine d'années. Tout est allé très vite. Remplacement à 23 ans d'un ténor vedette à Londres, repéré dans la foulée, s'en suivent des enregistrements d'albums, des opéras sur toute la planète, des tournées et ce pendant 40 ans. Alors qu'est-ce qui fait de lui une icône? Écoutez l'avis d'une consoeur, Eve Ruggieri, qu'il a souvent côtoyé.
À l'origine, il y a d'abord des dons très très présent, mais c'est surtout le charisme. Et alors, curieusement, on dit toujours pour Callas, il est devenu Callas, la voix n'était pas parfaite, mais c'était une tragédienne en même temps hors pair. Et ce n'est pas du tout le cas pour Pavarotti, qui sur scène était plus une borne, mais il arrivait, et il y avait d'abord cette image du bon gros géant, comme ça, avec son mouchoir qui ressemblait plus à une serviette de table, tellement il était long. Et puis là, c'était la pure beauté de la voix. Où il y avait tout le soleil de l'Italie. Et on ne résistait pas à ça.
Vertigo. mystère de Massenet, pourquoi me réveiller ? Cet air en français, d'ailleurs il ne chantait qu'en italien ou en français et refusait de se risquer à d'autres langues. Pour le ténor mexicain Rolando Villason, il y a la voix certes, mais aussi la technique et la grande humanité du personnage.
Il avait une technique impeccable, la respiration, la résonance, l'appui, tout marche avec une balance. Magnifique, évidemment, le talent est là, les aigus sont là. Et bon, en plus de la technique, de la voix magnifique, c'est le charme. Il avait une lumière en lui-même. C'était adorable de le voir, de l'écouter, de le rencontrer. Il y avait quelque chose de chaleureux, comme si on était embrassé par cette voix. Et il était très drôle.
Les petites notes humoristiques du ténor dans Rigoletto de Verdi. Et toujours cette voix chaude, large, à l'image de sa générosité. À Modène, où il est né, où il a vécu et où il a fini ses jours, Pavarotti faisait ses courses au marché, il discutait avec tout le monde avant d'organiser de grands repas et des parties de cartes chez lui, par exemple.
En fin de carrière, il a aussi donné beaucoup de concerts à but humanitaire,
oui,
Charlotte.
Bien sûr, avec U2, par exemple. On s'en souvient au moment du conflit en Yougoslavie dans les années 90. On l'a également vu chanter avec Florent Pagny ou même avec les Spice Girls. Et bien sûr, il y a eu l'aventure des trois ténors. À l'origine, c'était pour fêter la Coupe du Monde en Italie en 90, mais le succès fut tel qu'avec ses copains Placido Domingo et José Carreras, ils ont entamé une tournée et ont rempli des stades entiers avec leurs airs d'opéra, contribuant à populariser cet art. Pavarotti aura vendu au total, environ 100 millions d'albums. Et c'est sans compter d'ailleurs ce petit dernier. Le ténor du siècle vient de paraître chez Decca.
Merci beaucoup notamment pour ces témoignages recueillis auprès de Rolando Villazone et Eve Ruggieri. C'était Charlotte Latour pour cet hommage à Pavarotti. Dans quelques instants, on se sépare et on accueille Julien Courbet.
RTL Matin, 9h26.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Quel est le prénom du héros d'Une colonne de feu, le dernier roman de Ken Follett qui paraît chez Robert Laffont, s'il vous plaît Bernard Lehu?
Eh bien c'est Ned, le James Bond du XVIe siècle.
Ben voilà, si vous nous avez appelé au 3210, vous avez tout simplement gagné ce roman grâce à Bernard. Merci beaucoup à toute l'équipe. Bonjour Julien.
Bonjour Yves.
Alors vous aujourd'hui aussi c'est Noël. Hein.
Pourquoi?
Ah ben, vous distribuez un cadeau somptueux.
Ah, le fameux le nouvel iPhone. Bah, on hésitait entre faire cadeau une voiture et le nouvel iPhone. La voiture c'était pas assez cher, donc on s'est dit c'est pas assez gros comme
oui.
Et dites, j'ai écouté ce matin. Oui. Alors, voilà. Peut-être, est-ce que je peux me permettre de vous donner un conseil?
Parce ah
que
oui, c'est oui, mais très volontiers, non, j'accepte
c'est
tout.
C'est pour l'économie, parce que j'adore l'angle éco, etc. Oui. Mais je me demande si on peut pas peut-être aller. Alors, écoutons déjà ce matin, oui. Parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris.
Allons, 7h39, l'angle éco avec vous, François Langlais. On le voit, mois après mois, le chômage ne baisse pas. Qu'est-ce qui se passe?
L'emploi a augmenté de 303 000 sur un an, 276 000 dans le secteur privé. Il a baissé de 0,1% sur un an. Au plan statistique, un emploi, c'est plus facile à mesurer qu'un chômeur, en pourcentage de la population active. Et là, ça a bien baissé. On est passé de 10,2% à 9,2% aujourd'hui, où l'indicateur qui fait le débat public n'est pas le bon.
François Langlais pour l'Angleco.
Alors, ça c'est ce qu'on a entendu. Alors, moi je propose modestement,
oui.
Peut-être que vous devriez le faire comme ça et vous verrez, ça sera peut-être plus clair.
7h39, l'Angleco avec vous François Langlais.
Bonjour à tous.
François Langlais pour l'Angleco, tous les jours sur RTL.
C'est beaucoup plus synthétique.
Bah, écoutez, c'est plus synthétique,
mais
ça oui. Vous permet de faire d'autres rubriques. Enfin,
bien sûr.
Vous y réfléchissez mais tranquillement.
Mais j'en parle avec François, là, on va se voilà.
Qu'on embrasse
un petit point,
très
hein.
Fort d'ailleurs.
C'est une très bonne idée.
Passez une bonne matinée.
On vous embrasse.
Vous écoutez RTL.